Canal Sud 92.2, il est midi et demi sur les ondes et on est en compagnie d'un camarade de la Vélorussion. Salut à toi.
Bonjour à tous et à toutes.
Alors, ce week-end, la Vélorussion Toulouse, ou peut-être nationale, je ne sais pas, fête ses 20 ans à Toulouse, c'est ça?
Alors ouais, c'est la Vélorussion toulousaine, du coup il y a des collectifs Vélorussion un peu partout en France. Et ce sont des collectifs autonomes, indépendants, et nous c'est le collectif toulousain du coup qui a été fondé en 2002.
Super. Et donc, du coup, on invite toutes les auditrices, auditeurs à se joindre à la fête d'anniversaire, samedi 4 et dimanche 5, qui se tiendra à la route de la Beige.
C'est ça. Donc, c'est une guinguette qui vient s'ouvrir, la maison Malpère. Donc, c'est une vieille ferme qui va être démolie et elle est réutilisée en attendant, en fait, entre deux projets par le collectif intercalaire. Et ça fait une guinguette, en fait, pour faire vivre ce quartier qui est pour l'instant un peu vide, un peu désolé. Voilà, ça construit des immeubles partout, mais ça construit pas forcément de lieux de sociabilité où les gens peuvent se rencontrer. Donc, voilà, sur ce lieu, il y aura des guinguettes, donc les mercredis, jeudi, vendredi. Et nous, à Vélorussion, en fait, on a saisi cette occasion, on a été contactés pour relancer du coup notre atelier de soudure et aussi proposer aux personnes de réparer les vélos. Alors, Vélorussion, je vais peut-être expliquer pour les auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas. C'est un atelier d'auto-réparation participatif. On va pouvoir venir réparer son vélo. L'idée, c'est que c'est les personnes qui réparent et qui apprennent à réparer. Donc nous, on va fournir des outils et des conseils si besoin. Voilà, donc il y a les outils aussi, beaucoup de pièces d'occasion, en fait, ce qui peut être difficile à trouver et ce qui peut être cher aussi. Et on a vu aussi dernièrement, en fait, des ruptures d'approvisionnement. Voilà, par exemple, quand le porte-conteneur s'était coincé dans le canal de Suez ou avec le Covid. Voilà, nous, en tout cas, avec une économie circulaire et en restant sur le terrain, en faisant du stock de pièces laissées à l'abandon, on arrive à proposer aux personnes des pièces pas chères et de bonne qualité, en fait, pour que les personnes puissent repartir avec un vélo qui fonctionne.
Et à Toulouse, il y a eu plusieurs lieux, il y a eu plusieurs locaux en fait de la Vélorussion. Et là, actuellement, ça se passe rue Joubert, si je ne me trompe pas, dans le quartier Bonnefoy, qui est un quartier qui est en train d'être détruit, justement. Est-ce que vous allez pouvoir garder votre local ou, du coup, peut-être, est-ce que tu peux commencer par présenter le local et puis peut-être après nous raconter comment ça se passe pour vous dans ce quartier qui est en train d'être démoli.
Alors, du coup, le local actuel, c'est 6 rue Joubert. C'est quand on part de Jeanne d'Arc, on traverse sous les rails du train, c'est la deuxième à gauche. C'est pas sur l'emprise des projets TESO, en fait, donc c'est pas à vocation à être démoli très prochainement, en tout cas. Voilà, c'est un. Donc, la Vélorussion a eu de nombreux lieux. On a commencé en squat, du coup, au Clandé, en fait. Il y a eu également, en fait, une co-occupation de l'ancienne préfecture, donc au Grand Haut Hôtel, qui aujourd'hui est le magasin Habitat. Voilà, donc on donnait des ateliers vélos, on permettait aux personnes de réparer leurs vélos. Ensuite, on a été sur le parking de l'actuel Mixart et. On n'espère pas, mais futur ex, peut-être. On a été encore ensuite dans un grand hangar qui était assez fantastique, en fait, qui était vers Croix-de-Pierre, rue Bénezet, mais qui nous a été repris pour en 2018. En fait, on a été sommé de quitter les lieux en 2017 suite à deux procès. En fait, on a gagné le premier procès, en fait, parce que la mairie ne nous avait pas proposé de solution de relogement, et on a perdu le second procès. Du coup, on a été expulsés. En fait, la mairie a fait des propositions un peu bidons de relogement qui ne nous convenaient pas, donc on les a refusées. Et néanmoins, ils ont réussi à gagner en justice et à nous sortir. Donc, c'était un grand hangar où on pouvait faire plein d'activités, stocker le matériel qu'il fallait. Ça nous a permis aussi d'essaimer, en fait, de créer d'autres lieux, de faire ressources, en fait, de pouvoir redispatcher, de pouvoir passer du matériel à d'autres associations qui réparent des vélos. Donc voilà, c'est un lieu qui a été perdu malheureusement pour faire un projet immobilier. Aujourd'hui, le projet n'est toujours pas réalisé, hein, c'est toujours en construction là-bas. Donc voilà, ça fait 4 ans que ce hangar a été démoli, ils ont tombé le plafond, mais pour autant, il n'y a personne qui n'est allé vivre là-bas depuis. Donc voilà, du terrain qui a été perdu pour la société d'une manière générale.
Et là, l'espace rue Joubert, il est peut-être plus petit, du coup.
C'est ça, c'est beaucoup plus petit. Notamment, l'actualité soudure avait été perdue parce qu'il n'y avait pas d'espace extérieur. Et là, du coup, avec ce nouvel lieu, du coup, la guinguette Maison Malpère, on a un espace extérieur et un petit hangar où, pour stocker le matériel. Donc, on va pouvoir refaire découper des cadres, ressouder, faire des remorques, des triporteurs ou des vélos loufoques. Et ce sera aussi un peu dans le cadre de l'anniversaire.
Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du programme et on insistera sur ce fameux bike war, la guerre des vélos, où j'ai l'impression que ça va geeker sur le vélo là.
Voilà, donc c'est cet anniversaire, donc bon, c'est quand même 20 ans, donc c'est un événement qu'il faut célébrer. Voilà, c'est assez impressionnant en fait pour un collectif qui va de squat en squat, d'occupation précaire et autres, d'être encore là sur le terrain après 20 ans, et aussi un collectif qui tourne principalement sur le bénévolat. On fait ça, on fait appel à plein de groupes, donc des amis d'amis, voilà, des petits groupes de la scène toulousaine, mais qui ont quand même un bon petit niveau, quoi, on va entendre de la belle musique. Il y aura aussi un spectacle, 1-2-3 Fnord, c'est un circassien anglais qui fait quelque chose d'assez barré, donc c'est bien marrant. Donc ensuite, on verra selon la météo, on a invité une équipe de bike polo mixte à venir. Alors il faudra voir s'il pleut.
C'est quoi le bike polo? Bon, on imagine, c'est... Enfin, en même temps, tout ce qui est polo, en fait, j'ai jamais compris.
Voilà, ouais, le polo, c'est un sport un peu étrange. C'est vraiment pour la très haute société. C'est un sport qui se pratique à cheval, du coup. Donc forcément, ça écrème un peu les pratiquants-pratiquantes. Je dirais même pratiquants, je ne sais pas s'il y a trop de... J'imagine que ça doit y avoir quand même quelques clichés masculinistes dans
le
polo.
Je sèche là sur le water. Mais non, et water polo, non, d'accord, c'est différent.
Ouais, le water polo est déjà, n'a pas besoin de cheval, donc c'est déjà plus abordable.
Mais de dauphin, du coup.
Ce serait intéressant, ouais, je sais pas s'ils ont. C'est-à-dire, en termes de maltraitance animale, c'est pas forcément fantastique.
Ouais, non, c'est un peu craignos comme
et ça coûte très cher avec des dauphins. Non, du coup, le bike polo, en fait, c'est, y a une balle. Les personnes sont sur des vélos, donc des vélos robustes et qui résistent au choc. Et en fait, se passe une balle avec une crosse sur un terrain, en fait. Alors, personnellement, je ne pratique pas, donc je ne pourrais pas forcément expliquer bien en détail. Mais c'est en fait une idée de se réapproprier un sport qui était réservé à la haute bourgeoisie et la noblesse. Du coup, par les classes populaires, juste avec un vélo, en fait, qui était... le vélo était l'apanage, en fait, de la société civile, des classes populaires à l'époque. Même si on essaye d'embourgeoiser la chose aujourd'hui, ça reste quand même quelque chose qui permet, en fait, à toutes et tous de se déplacer pour peu de frais. Mmh. Voilà, du coup, sur le bike polo.
Ouais. Et il y aura justement au cours là de... Et juste le bike polo, vous avez trouvé un espace assez grand pour le...
Oui, il y a un parking sur la maison à Malpère, du coup. Donc on va réserver un espace. Du coup, ça prend la place d'un terrain de tennis, c'est ce qu'on m'a dit. Donc on va réserver un espace pour ça. Et du coup, cet espace servira aussi à la bike war. Donc cette bike war, ça, c'est un ensemble en fait d'événements. Donc l'événement central, c'est un destruction derby de style un peu Mad Max. L'idée, c'est en fait de prendre des vieux cadres qui ont été mis au rebut parce que inutiles, rouillés ou cassés, de tout découper, de tout ressouder, de faire des monstres à propulsion humaine et de s'affronter avec ça, en fait, de se rentrer dedans et de tout casser, en fait. L'événement se termine quand tout est en ruine, en fait. Donc c'est
okay.
Délire punk post-apocalyptique.
Un peu comme le capitalisme, quoi. Enfin, n'est-ce pas ?
Voilà, ouais. Mais en plus souriant.
On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Un salarié va sans doute arriver en retard à son bureau. En retard, mais aussi fatigué, stressé et donc moins efficace.
Les bouchons sont une plaie à Bruxelles, et qui est d'ailleurs à taille similaire la ville la plus embouteillée d'Europe. À 32 millions d'heures perdues.
Once upon a time, in a city, There were men and women. Oh yeah, you know what I'm talking about. My brothers and sisters, the time has come for us. Let's ride the bike. Time has come for revolution.
Tic-tac, tic-tac, des matins très tôt. Du train-train au métro, c'est la course vers le boulot. Clic-clac, je déplie le vélo. Dans le crachat ou dans le chaud, je suis en mochard d'assaut.
Peur de ce mode de vie effréné. Il est temps d'apprendre à désembrayer. Voyons sur les générations futures. Je veux les voir gambader dans la nature.
C'est nice, cool, slow et sans bruit. Imagine un monde sans voiture, ça fait cuit-cuit. Marre de la petite ceinture et du ring. Avec mes potes, on a vu du drinking. Car sur mon bike, je suis happy. Libre comme l'air, dans la city.
City bike, single speed, mountain bike, BMX. Dansen nous zo op, zijn de stedelijke frontlinie. Een verzetsleger, guerrilla beweging. Van moedereer de dini van de notte moe weten. We zijn straders die raden voor de goede zoek. Een notte vrijstad die veel te veel op loodse mocht. We zijn de cavalerie, van speert en de fiets. Vele roche annexeert elke fiets. De station en station, les abdos de fou. J'en connais un rayon, j'ai la voix du deux roues. Prends ton ticket. T'es sur la bonne piste, rejoins le projet. Dans la famille du cyclisme.
4 ni 3 ni 2 roues. Chapouilling sur les mains. Fou fini les barons. On vise la vie de king. On tourne plus en rond après un parking. Pour sa seule solution, la révolution. Qu'on se mette en scène et puis tous nous suivrons. Ce son est suite tous les sarpés ou jeunes qui tracent le sillon de la Velocution.
Canal Sud 92.2. C'est bien de parler comme ça avec des gens qui crient derrière. Est-ce que vous êtes chaud? Ok. Alors, de retour dans le magazine, on est en compagnie d'un camarade de la Vélorussion pour justement annoncer cet anniversaire des 20 ans qui se tiendra au 116 bis route de la Beige dans cette guinguette qui est dans quel quartier, rappelle-nous.
Alors c'est le quartier Malpère, c'est un tout petit quartier où il y avait...
Ah, c'est pour ça que je ne sais pas où c'est en fait,
voilà,
c'est où, c'est nord-sud.
Quand on le regarde sur Google Maps, il reste, on voit des petits pavillons, des petites fermes. Actuellement, c'est des gros bâtiments de briques qui sont pas encore peints, c'est des grues, voilà, c'est un quartier où il y avait vraiment très peu de personnes auparavant, mais qui dont ouais, qui voit un projet de densification, de voilà, comme on peut voir à plein d'endroits en fait. Voilà, donc ça fait pas forcément rêver. Hein. C'est derrière Airbus Defence and Space, à côté des rails, à côté. Bon, c'est vraiment à mi-chemin entre Montaudran et la Belge, quoi.
Ok, et on y va bien en vélo. Alors justement, là, on a un petit peu parlé du côté technique, de cette histoire de la Vélorussion à Toulouse, mais ça serait c'est intéressant aussi d'en parler d'un point de vue politique, parce qu'en fait, Vélorussion, c'est, bah, comme son nom l'indique aussi, un collectif qui porte politiquement plusieurs luttes. Avant de parler de la question urbaine et peut-être de l'écologie, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la question du sexisme, notamment dans le fait que quand on va faire réparer son vélo dans différents ateliers à Toulouse, on est en tant que meuf, en tout cas parfois frappée par le sexisme qui peut exister sur cette... on va dire le fait que les mecs cis transmettent pas forcément le savoir-faire mécanique en fait, et que voilà, en fait c'est la mécanique, c'est des lieux où on est confronté au sexisme, et c'est des pratiques en fait qui sont genrées, etc. Bah du coup je me demande comment cette question du sexisme et de cette transmission, ou en tout cas est-ce qu'il y a une volonté de déconstruire justement ce rapport genré à la mécanique, à la Vélorussion, et comment ça se manifeste si c'est le cas?
Oui, alors donc c'est une thématique qui est assez centrale pour de nombreux ateliers vélo en fait. Il y a de grandes réflexions pour faire en sorte que en fait ces discriminations de genre en fait qu'on a dans la mécanique ainsi que dans la mécanique vélo en fait, mécanique auto aussi, il y a des problèmes de ce type. Ces discriminations n'ont vraiment pas de sens d'être en fait. Il n'y a pas besoin, en fait, voilà, des chromosomes XY ou XX ne changeront rien à la capacité à réparer un vélo en fait, et voilà, c'est quelque chose donc qui n'a pas de sens, donc il faut se débarrasser en fait pour que plus de personnes puissent se sentir à l'aise et autonomes avec leur vélo et puissent réparer leur vélo. Voilà, bon, c'était au début du XXe siècle en fait qu'on a vu apparaître en fait les vélos et les automobiles dans une même mouvance en fait, avec un côté masculiniste assez prégnant en fait. Voilà, où c'était pour les hommes, c'était le sport, c'était la vitesse, des délires un peu malsains. Ouais.
Pardon, je complétais ce que tu dis, le déplacement, l'extérieur, tout ça.
Voilà, oui, et ça va aussi avec cette idée d'une femme qui est invisibilisée dans la société et qui reste à l'intérieur, qui n'a pas forcément besoin de se déplacer ou qui va se déplacer dans l'automobile de son mari. Bon, il y a néanmoins des bicyclettes pour femmes, entre guillemets, qui ont été développées. Donc forcément, il fallait que ce soit des véhicules différents. Donc déjà, ça va créer des différences de genre. Alors que ouais, le cas, on a à peu près la même anatomie. Donc le cadre de vélo apparaît besoin d'être ouvert davantage pour une femme.
Alors parlons-en juste de ces vélos pour femmes, parce que c'est quand même l'arnaque du siècle. Enfin, il n'y en a pas qu'une, mais ça en fait partie. En gros, l'idée, c'est de dire... qu'il faut pas, les vélos pour femmes n'ont pas la barre au milieu parce qu'en fait on est censé être en jupe, et donc c'est pour qu'on n'écarte pas les jambes.
C'est ça.
C'est incroyable, c'est magique, ils sont super.
C'était aussi une époque formidable où les femmes n'avaient pas le droit de porter des pantalons en fait. C'était interdit de porter des pantalons pour des femmes.
Ouais, donc forcément
donc c'est tout un monde qui reste un peu encore. Encore là, donc on essaye d'enterrer un peu ce vieux monde qui n'apporte rien d'intéressant. Voilà, donc en fait, il y a des cadres fermés, du coup, donc avec la barre horizontale, et des cadres ouverts où on peut passer plus facilement la jambe, en fait. Et il faut savoir, en fait, que ces cadres ouverts, du coup, où on pourrait éventuellement se déplacer en robe, en kilt, en sarong ou autre, ces cadres-là présentent aussi un intérêt pour des personnes qui ont des problèmes de mobilité en fait, qui ont des problèmes d'équilibre, donc ça permet de monter et descendre plus facilement du vélo. Donc dire que c'est uniquement pour les femmes, ça n'a pas de sens, et voilà, du coup on essaye de parler de cadre ouvert et de cadre fermé, par exemple. Donc,
Et si on parle de cadres ouverts, de cadres fermés, il y a des cadres qui sont fermés au Mexis. Enfin, des cadres, j'ai envie de dire, des moments. La Vélorussie, on propose, si je ne me trompe pas, des ateliers en mixité choisie, sans Mexis hétéro.
C'est ça, oui, en fait. On s'est rendu compte assez vite, en fait, que l'équipe bénévole de Vélorussie, à notre corps défendant, était principalement des hommes cisgenres, hétérosexuels. Donc voilà, c'était l'idée de lutter contre ça. En fait, cet état de fait n'a pas de raison d'être. En fait, il y a la moitié de la population qui se constitue de femmes. Comment ça se fait qu'on n'est pas parité? Ça nous a posé question. Du coup, l'idée, c'était en fait de laisser un espace pour que ces personnes puissent apprendre, en fait, sans le jugement de l'autre, sans le regard de l'autre, sans d'éventuelles relations malsaines de drague, d'harcèlement, de personnes qui se sentent plus légitimes que d'autres et qui vont prendre le pas de par leur statut reconnu par la société d'homme. Voilà, du coup, on voulait créer en fait une safe zone pour que les personnes puissent apprendre de façon sereine, en fait, sans les oppressions qu'elles peuvent vivre déjà au quotidien, en fait. Donc ces ateliers de mixité en choisie sont les deuxième et quatrième jeudis de chaque mois. On n'est pas les seuls à porter cette activité. Il y a aussi le collectif Queerage. Donc si vous allez sur internet, vous cherchez queerage31.com, il me semble que c'est un .com, qui a trouvé un local, du coup, et propose des ateliers en mixité choisie. Donc mixité choisie sans hommes cisgenres. Et voilà, l'atelier s'appelle Cambouy. Voilà, j'invite les personnes que ça peut intéresser à aller s'investir aussi dans cet atelier, parce que tous les ateliers ont besoin de force bénévole, et il faut pas se bloquer avec l'idée de se dire ah, je connais pas la mécanique. C'est pas particulièrement compliqué, on apprend très très vite, et très vite, en fait, on peut aider le collectif, on peut aider les associations.
Et là, je viens de faire la recherche web. En fait, Queerage 31 dispose d'un site WordPress. Du coup, si vous tapez Queerage, Q-U-E-E-R-A-G-E, sur votre navigateur, enfin sur votre moteur de recherche, vous allez tomber assez facilement sur eux. Alors justement, tu parlais du fait que le vélo est né un petit peu en même temps que la voiture, né notamment de l'exploitation coloniale, puisque c'est le caoutchouc qui a amené à la création des chambres à air et des pneus. La voiture et le vélo sont nés en même temps, et pourtant dans l'espace dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un peu je sais pas comment le dire, mais en gros c'est comment ?
Des antagonistes.
C'est des modes de déplacement antagonistes, même s'il y a des gens qui ont des voitures et des vélos, tout ça. Mais en tout cas, il y a... c'est des manières antagonistes de penser le déplacement, de penser aussi l'aménagement des villes. Quel est le discours politique que vous portez à la Vélorussion sur justement cette question de la place des vélos dans la ville, et notamment du rapport aux voitures ?
Alors pour revenir sur l'histoire, en fait, ces deux objets techniques se sont développés à peu près au même moment. Sauf que bien entendu, en fait, la voiture étant une énorme bête de métal, au début du XXe siècle, c'était uniquement réservé à des personnes très très riches qui pouvaient se permettre ça. Aujourd'hui, avec le néocolonialisme et le capitalisme tentaculaire, on peut faire construire, en fait, ces voitures à l'étranger avec une main-d'œuvre bon marché, avec des matériaux qu'on va aller arracher du sol aux quatre coins du monde. Et du coup, en fait, on va se permettre d'offrir, en fait, des voitures à toute la population, du moins blanche et riche, du monde développé, entre guillemets. Et du coup, c'est suite à la Seconde Guerre mondiale, du coup, avec la reconstruction, le plan Marshall, il y a beaucoup d'argent, en fait, qui a été injecté, en fait, pour faire perdurer cette industrie, pour faire du business en vendant des voitures et pour imposer la voiture dans la ville. Il faut savoir qu'avant, c'était la petite reine, en fait, qui était présente dans les déplacements quotidiens, en fait, de la population. Ma grand-mère faisait 20 km en Bretagne pour aller chaque matin, quand elle était petite, à l'école primaire. Voilà, c'était la norme, mais on a effacé en fait cette habitude, en fait, cet objet qui était dans le quotidien, on a voulu le remplacer par la voiture. Il n'y a pas que le vélo qui a souffert de ça. Le train aussi, si on regarde le réseau ferré qu'on pouvait avoir en 1920 ou avant Seconde Guerre mondiale, il était nettement plus développé en fait. Tous les petits villages avaient leur ligne de chemin de fer, et petit à petit elles ont été abandonnées. Certaines sont devenues des voies vélo, donc c'est sympa, mais on aimerait quand même bien avoir un service public de train en fait. C'est complémentaire du vélo, et aussi voilà, ça répond à d'autres besoins. Donc en fait c'est la voiture avec le coût en fait néanmoins qu'elle demande, rien que les infrastructures routières en fait absorbent un pognon monstre. Voilà, ça laisse plus trop d'argent en fait, malgré tout, malgré que le capitalisme en fabrique à l'appel, ça reste plus beaucoup en fait de place aux autres modes de déplacement. Alors du coup, par exemple, si on prend sur la ville, ben on a fait des énormes des deux voies, des trois voies, des énormes artères en fait pour permettre aux voitures d'aller très vite.
Là, tu parles de Toulouse? Ou en la ville en général?
En France, beaucoup, en fait. Voilà, ça s'est fait de différentes manières selon les pays. Si on prend le cas, par exemple, des Pays-Bas, ça s'est lancé peut-être un peu plus tard. Voilà, ils ont commencé à découper les villes pour y planter des grandes routes. Et puis, il y a des enfants qui ont été tués, en fait, en grand nombre. Et là, la population s'est soulevée, a dit non, arrêtez de tuer nos enfants. Et c'est comme ça, en fait. C'est avec cette mobilisation, en fait, de la population que les Pays-Bas sont aujourd'hui en fait un pays où les vélos est très répandu et respecté en fait par les automobilistes, et un pays où il fait bon vivre en fait et bon se déplacer en vélo malgré qu'il pleuve assez souvent, qu'il y ait du vent et tout. Voilà, donc du coup ça, c'est ce vent, cette pluie, c'est des faux problèmes, particulièrement en France aussi et à Toulouse notamment. Bon, même si le vent d'OTAN n'est pas forcément sympa. Et voilà, du coup, on se retrouve avec voilà, une situation où les voitures ont pris toute la place parce qu'on a dit que c'était le progrès, parce qu'on a dit que c'était de la respectabilité sociale. Alors que maintenant, en fait, on se retrouve avec des voitures qui vont plus lentement que les vélos, en fait, qui bouchonnent, qui stressent les personnes. Même les automobilistes sont les premiers à en souffrir. C'est les premiers à respirer leur gaz d'échappement et les solvants qu'il y a dans leur pare-chocs, dans leur tableau de bord et autres, et à perdre du temps en fait dans les bouchons. Donc en vrai, seuls les grands ponts de la finance y retirent quelque chose, seuls les patrons des entreprises qui vendent des voitures et du pétrole vont avoir un intérêt là-dedans. Et par contre, à coup de pub, en fait, on convainc les personnes que si, c'est confortable, c'est convivial et autres, alors que objectivement, en se posant bien la question, on se rend compte que non.
Alors justement, tu parlais, tu as évoqué les dangers que représente la voiture, et notamment pour les cyclistes. En 2021, en France, c'est 2947 cyclistes qui ont été tués par un ou une automobiliste. Alors c'est justement, je voulais aborder ce sujet-là du danger que représente la voiture. Vendredi dernier, il y a eu une masse critique, donc c'est une sorte de manifestation à vélo qui était proposée par la Vélorussion. Donc vendredi dernier, il y avait une masse critique justement en hommage à Lulu. C'était une cycliste, c'était pas qu'une cycliste, c'était une personne évidemment, et d'ailleurs productrice à Canal Sud, mais c'était une cycliste de 29 ans et camarade de lutte qui a été tuée par un chauffard alors qu'elle se rendait à sa formation pour justement apprendre à conduire des bus à 6h du matin. Là, ça fait 3 ans qu'elle est décédée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une date spéciale puisque à partir de 14h se tient justement le procès du conducteur de la voiture. Il y aurait plein de sujets par lesquels on pourrait passer, mais avant de passer à justement les questions que ça peut nous poser, par exemple en tant qu'anarchiste sur le rapport à la justice, qu'est-ce que vous portez justement dans ces moments-là qui sont malheureusement très fréquents, où il y a des personnes qui meurent, ou en l'occurrence des cyclistes qui meurent percutés ou écrasés par des voitures. Qu'est-ce que vous portez, voilà, Vélorussion, et qu'est-ce que vous pouvez proposer? Je sais que vous étiez présent dans l'accompagnement, et quel sens vous y voyez en fait dans ces moments-là, Et peut-être pour commencer, il y a aussi ce titre de La Dépêche, Encore une voiture. La Dépêche qui, très peu renseignée, a très mal documenté ce qui s'était passé. Bref, ouais. Non.
Ouais. Alors là, la question juste avant, qu'est-ce qu'on peut porter suite à ces drames? Ben, on ne peut pas porter autre chose que le deuil, en fait. Quand ça arrive, c'est trop tard. On ne peut plus rien faire. Effectivement, ben, la justice, la justice fait pas revenir les morts. C'est, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Après, c'est en fait la société qu'il faut modifier. Ouais, et puis on est dans une cosmogonie, dans un paradigme où en fait la voiture est normale et c'est la voiture en fait qui commet les crimes et pas en fait enfin qui en fait on désanonymise en fait il y a eu une personne qui a été imprudente avec un véhicule. Ça arrive quotidiennement en fait, se déplacer avec un véhicule de plusieurs tonnes à 50 km/h dans un endroit où il y a une densité de population supérieure à 1000 habitants au kilomètre carré, c'est fou en fait, c'est démentiel. On ne met jamais ça en perspective, mais c'est comme se promener avec, et faire feu avec une arme dans une rue passante. Quoi, en fait. C'est juste, c'est pas envisageable en fait. Bon, on l'a rendu normal néanmoins. Pardon. Et
du coup, ce que vous critiquez, c'est cette individualisation du problème, qui d'ailleurs n'est pas sans lien avec la manière dont l'appareil judiciaire va traiter le problème. Mais en fait, ce que vous dénoncez, c'est peut-être de manière plus structurelle la place, la banalisation, la normalisation de l'usage de la voiture et dans la ville.
Et c'est aussi une question de représentation dans les esprits. Si on va dire une voiture a percuté quelqu'un, on ne dit pas c'est une personne qui a mal géré son véhicule. On va dire aussi cette personne était sous alcool et sous cocaïne. Certes, effectivement, en fait, mais il y a énormément de personnes qui se tuent au volant en n'étant pas sous l'emprise de différents produits, quoi. Voilà, c'est toujours en fait dire c'est les autres ou c'est pas les êtres humains, c'est pas de la responsabilité des gens, on déresponsabilise les personnes alors que non. Et en tout premier lieu, en fait, c'est aussi l'État qui va se déresponsabiliser parce qu'en fait, il a des collusions avec avec les grands patrons qui. L'industrie automobile française est quelque chose qui est chouchouté par l'État. Et voilà, du coup, ils veulent pas porter préjudice à leurs amis. Et on se retrouve du coup avec une propagande massive autour de la voiture.
Ouais, et puis ça fout aussi les boules parce qu'on voit que là, on est face à un désastre écologique, que l'industrie automobile, elle construit des SUV. Tu parlais de responsabilité tout à l'heure, j'ai l'impression avec... Alors, je sais pas si c'est vraiment en train de... Mais si, je pense que c'est le mouvement un petit peu qui est en train de se dessiner, mais des voitures de plus en plus automatisées, dans lesquelles on est de moins en moins acteurs, même si on prend la voiture aussi comme un objet cool sur lequel on peut bidouiller et s'approprier. En fait, on ne va pas du tout dans cette direction-là. Et qui porte en fait... en tout cas, l'industrie automobile crée aussi ce rapport-là. De la voiture, un rapport de déresponsabilisation. On sait, y a pas mal de petits reportages audio notamment qui ont été faits sur le rapport à la voiture. On sait que les gens qui tuent en voiture, c'est principalement des gars de classe moyenne, de la bourgeoisie ou petite bourgeoisie qui ont des grosses bagnoles où ils se sentent bien protégés. C'est tout un rapport aussi au monde, en fait, la voiture, dans lequel en fait, c'est aussi une industrie qui vend pas seulement du déplacement, mais aussi de la puissance, quoi. Ou en tout cas, une impression de puissance. Du coup, ça va te créer des mecs qui ont buté des gens sur des routes et qui ont niqué leur vie pour ça. Ouais, il y a aussi. Et ça, en fait, ça tombe pas de nulle part, c'est créé par une industrie, quoi.
Voilà. En fait, on modifie les personnes avec cette industrie, c'est-à-dire qu'on les rend un peu passives et on les déresponsabilise. C'est aussi les délires un peu glauques de voiture autonome, en fait, où. Voilà, on a déjà des personnes qui conduisent tout en regardant leur smartphone, qui ont un GPS et qui ne vont pas du coup réfléchir à leur itinéraire et vont se laisser guider par le GPS. Il y a tout un business de l'oisivité en fait. On fait des consommateurs captifs et passifs, on n'est plus acteurs en fait de nos vies. Et ça, c'est tout bénef pour l'industrie capitaliste. C'est-à-dire que en fait, les gens vont acheter ce qu'on leur dira d'acheter, ils vont cesser de réfléchir. Et on appauvrit en fait la société sur le plan social, culturel, intellectuel et sur les capacités qu'elle a à réagir, notamment et à réagir face à ce modèle capitaliste et cette industrie qui ravage en fait la planète pour leur profit immédiat. Là-dessus, nous, au-delà de vouloir réduire la présence de la voiture, en fait. Une voiture par personne, c'est démentiel. Là, on n'a pas les ressources sur la planète pour faire ça. C'est un outil qui peut avoir des intérêts. Ça peut être intéressant, du coup, d'avoir des ambulances, d'avoir des camions de pompiers, bien entendu. Et aussi, ça peut dépanner aussi pour des personnes. C'est un outil qui a tout intérêt à être collectivisé. En fait, on pourrait avoir de l'autopartage, par exemple. C'est des solutions qui peuvent être intéressantes, mais c'est pas quelque chose qui va intéresser en fait une industrie de production de masse. Et ça, il faut lutter contre ça. Et également, en fait, il va y avoir aussi des questions de comment on se réapproprie l'espace de la ville. Alors, les questions qui sont très porteuses, en fait, qu'on va voir sur la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUBIC, qui est vraiment la grosse fédération française de militance vélo. Donc, à Toulouse, on a deux pieds de roue qui militent là-dessus. Le message qui va être porté va être, du coup, d'aménager, en fait, des espaces pour les cyclistes. C'est le message qui est vraiment très en marche. Alors, si les aménagements sont bien faits, c'est agréable à utiliser, c'est pratique, ça peut même être convivial. C'est quelque chose. Mais nous, on va apporter en fait un autre discours à Vélorussion qui est peut-être qui parle moins aux personnalités politiques, hein, parce que bon, aussi l'idée c'est de faire du chiffre, de faire des kilomètres de route, de dépenser tant de milliers d'euros en fait. Nous on va dire non, on va pas faire des kilomètres, on va pas faire couler de la peinture, on va pas dépenser des milliers d'euros. Tout ce qu'il faut faire c'est enlever la signalisation en fait. On enlève les feux rouges, on enlève les stops, et en fait on se retrouve avec une ville sans règles en fait. Alors c'est un autre paradigme, là, c'est une rupture nette. Mais l'idée, c'est que quand on a ça, en fait, pour pouvoir se déplacer, on est obligé de faire attention aux autres, en fait. À partir du moment où on commence à faire attention aux autres, on se dit, là, je suis en train de me déplacer sur un trottoir, je regarde pas mon smartphone, je regarde si je suis en train de déranger quelqu'un. Je roule en vélo, je vois une personne qui marche à pied, elle est peut-être plus fragile, elle se déplace plus lentement, je lui laisse la priorité. On se donne un code de priorité à droite, par exemple, pour essayer de régler un peu les intersections, comment ça fonctionne. Mais vraiment, l'idée, c'est en fait de juste remettre le regard vers l'autre, en fait, un peu dans le game. L'idée de regarder, en fait, les gens, de voir qu'est-ce que cette personne... je reconnais cette personne, je vois cette personne. J'essaie de comprendre où elle va, ce qu'elle fait. Et j'essaie pas d'imposer, en fait, moi, ma vitesse, mon délire, en fait, et de pousser mon individualisme avant le bien-être des autres, et voilà, de retrouver en fait un espace public où en fait qui appartient à tout le monde et qu'on n'essaye pas de s'accaparer en fait, juste on le partage et on essaie de faire en sorte, on se trouve quelques petites règles très basiques, priorité à droite, grosso modo ça suffit en fait, tout simplement pour régler les trucs, priorité à droite et priorité priorité aux piétons, ensuite vélo et ensuite éventuellement les véhicules motorisés s'ils sont encore là, parce qu'on n'aura peut-être pas du pétrole indéfiniment et ni du lithium et en fait juste alors ce sera compliqué au début, il faut réfléchir, il faut reprendre conscience de notre place dans la société et sur la chaussée, et en fait recommencer à interagir avec les autres personnes. Et ça se fait très bien, en fait. Alors, je sais pas si ça existe encore, il me semble que plus trop, mais si on regardait, en fait, les images qu'on pouvait avoir de Chine et d'Indonésie ou autre, en fait, 30 ans auparavant, ben, en fait, on voyait des rues, en fait, remplies de vélos et quelques motos, des tuk-tuk. Et ça se passait très bien, en fait. Il y avait une densité de population qui est phénoménale dans ces villes-là. Et pour autant, en fait, il y avait pas de... Ça s'organisait, en fait. C'était,
justement, ouais. Raison de plus, hein, parce que tu disais... Enfin, il y a quand même des gros bouchons. Si on est sur une voiture par personne, ça ne marche pas.
Voilà, ouais. Il y a des analyses qui sont faites. En fait, c'est la voiture individuelle est le plus mauvais moyen pour déplacer un certain nombre de personnes en un temps donné à travers une section de route, quoi. Le vélo est en deuxième après le train, en fait. Bon, ça dépend de comment c'est mesuré, comment c'est calculé, quoi.
Et comme on est à Toulouse, justement, et que ça fait... Mais j'ai toujours pas capté si c'était 20 ans. C'est la Vélorution Toulouse qui fête ses 20 ans ?
C'est ça, Vélorution Toulouse.
Ok. Puisqu'on est à Toulouse et qu'on parle de Toulouse, quel bilan, toi, tu donnerais, quelle vision tu as des politiques municipales, justement, qui concernent cet aménagement ? Je sais que ce week-end, au kiosque, on a écouté un documentaire assez chouette d'Américo Mariani, enfin Américo qui est un camarade de la radio, qui parlait justement d'un projet de lutte, enfin d'une lutte en fait qu'il y a eu dans les années 80 contre l'aménagement d'une autoroute sur la Garonne, sur les berges, et ça interrogeait en fait vraiment ce rapport-là à la voiture, cette construction urbaine. Et vous pourrez l'écouter à partir d'octobre. Voilà, nous, on l'a écouté en avant-première. Et bien, écoutez, vous n'aviez qu'à être là. Non, bref. Et du coup, c'était très intéressant. Et ça questionnait justement ce que nous, on vit à Toulouse. Donc, quelle vision, je repose la question, mais quelle vision tu as des politiques à Toulouse et peut-être spécifiquement de celles portées par la mairie de Moudenc en termes d'aménagement, ouais, de la voiture, enfin des espaces voiture, vélo.
Alors moi je suis toulousain depuis 10 ans, 12 ans maintenant en fait, 12 ans. Et je suis arrivé, du coup c'était encore Cohen à la barre, à la Schlag, hein, aussi, hein, c'est lui aussi qui nous a brisé notre bail précaire sur notre ancien lieu. Néanmoins, bon, les personnes qui se trouvent aux rênes du pouvoir politique doivent quand même ménager la chèvre et le chou. Et l'urgence climatique étant ce qu'elle est, l'engouement pour le vélo qui vient de la population étant ce qu'il est, ces personnes sont obligées en fait de faire des choses, sont obligées d'aménager en fait des espaces cyclables. Mais en fait, l'idée c'est toujours en fait la viciosité du capitalisme. En fait, c'est toujours détourner en fait le problème et trouver comment on fait des profits avec ça. L'idée c'est que passer
le vélo Toulouse est un très bon exemple.
Le vélo Toulouse.
C'est comme ça que ça s'appelle, les vélos en libre service.
Ouais. Je sais pas si c'est le meilleur exemple, par exemple aussi, la piste cyclable, ça coûte moins cher certes à installer que de la route voiture, ça s'use moins vite parce qu'on y fait déplacer des véhicules moins lourds. Néanmoins, ça permet quand même de faire venir des sociétés de service, du BTP, de couler du béton, de mettre de la peinture, de recasser le béton, de remettre du béton, de remettre de la peinture. Ça fait tourner une industrie. Plus encore aussi, si on prend l'hypercentre, le passer en mode piéton, ça le rend plus convivial, cet hypercentre. Du coup, les prix de l'immobilier, ils grimpent. Alors du coup, on va aussi en profiter pour mettre des belles dalles de pierre bien glissantes, un peu nazes. On enlève aussi les barrières sur les côtés, du coup c'est difficile de garer des vélos. Du coup, on met des vélos un peu n'importe où et ça peut gêner d'autres usagers de la voirie. Mais ça fait joli, ça fait monter le prix de l'immobilier. Et ça, bien sûr, la junte au pouvoir qui est multipropriétaire et va bénéficier naturellement en fait, de l'augmentation des prix de l'immobilier, il tire directement son bénéfice en fait. Néanmoins, sur cette piétonnisation de l'hypercentre, bon, quand j'étais au début, c'était un peu respecté. Vraiment, il y avait eu une rupture en fait avec la fermeture d'Alsace-Lorraine et de Parc Gaminière et autres. Maintenant, quand j'y vais, je me dis ça pas évolué depuis, même au contraire, en fait, il y a des bagnoles qui continuent à s'insinuer, en fait, dans ces petites rues. Même pas des riverains ni des riveraines, hein. Voilà, c'est juste des gens qui sont en vadrouille là-dedans et qui galèrent, qui sont dans des bouchons, qui embêtent les personnes qui sont à pied ou qui sont en vélo ou qui sont en fauteuil roulant et autres, mais qui vont quand même s'insinuer là-dedans. Faut voir aussi qu'on a toujours en fait un énorme parking juste sous la place du Capitole, c'est une aberration complète. Voilà, donc on continue en fait à laisser les voitures s'installer là-dedans et ça marche pas en fait, ça. Avec une densité de population comme ça et une attractivité du centre, ben non, ça fonctionne pas. Mais bon, on laisse quand même la voiture dans le paysage, comme ça aussi, ben les personnes très aisées en fait qui peuvent habiter dans ces quartiers centraux pourront quand même venir avec leur énorme SUV, leur voiture blindée qui les protège de la population et pas avoir à se mêler en fait avec ce tiers état, quoi.
Merci, on va bientôt se quitter. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter avant, peut-être un rappel peut-être rapide de cette programmation ce week-end?
Ouais, du coup sur ces 20 ans, donc c'est au 116 Bits route de la Bège, on va faire un départ collectif du port Saint-Sauveur, donc là où il y a les pompiers qu'on salue au passage et qu'on encourage pour leur lutte.
Parce qu'ils sont en grève en ce moment, enfin je te faisais pas...
Ils sont tout le temps en grève, enfin ils sont tout le temps en lutte, enfin ils peuvent pas vraiment se mettre en grève, ils ont pas le droit, ils sont obligés de servir, mais ça fait plus de 5 ans en fait qu'ils sont en rupture en fait, qu'ils sont en manque d'effectifs, que les gens partent en burn-out, qu'ils ont pas les moyens d'assurer en fait de leur métier qui consiste à sauver des vies en fait. Voilà, ça, je passe souvent devant cette caserne, il y a toujours en fait devant toutes les casernes de pompiers, il y a des grandes banderoles en fait pour crier le mal-être en fait des personnes qui nous sauvent des vies en fait. Donc voilà, on soutient ces personnes, on les applaudit, ça pareil avec aussi les personnes soignantes. Donc en tout cas, bref, Port Saint-Sauveur, rendez-vous 12h le samedi et le dimanche. On va partir ensemble en fait vers la route de la Bège. Donc on va prendre, selon le nombre de personnes qu'on est, un itinéraire ou l'autre, soit un itinéraire convivial, soit un itinéraire plus de lutte, où on va s'imposer sur la route qui nous appartient aussi et la reprendre tranquillement pour aller faire la fête du coup dans cette petite guinguette. Voilà, donc il y aura des concerts, donc on a Machuca Banda qui fait de la cumbia, il y aura Ghost on a Wire, un duo de blues, on a 123 North, un circassien qui va nous faire un petit spectacle, qui d'autre on a, alors c'est pas moi qui l'a programmé.
Lamine.
Il y a Lamine aussi, ouais, il y aura Lamine, il y aura Calimero & Co, du coup un duo aussi punk assez barré. Et on a qui d'autre? Qui c'est que j'ai oublié? On a 7 groupes.
Et on peut retrouver sur le site de la Vélo.
Voilà, vous trouverez, désolé pour les groupes que j'ai oubliés, vous trouverez la programmation sur notre site. On est en train de distribuer des flyers un peu partout dans la ville aussi. Voilà, il y aura du coup Bike War, Joute de Tallbike. Donc Tallbike, c'est les vélos à étage. On va s'affronter et essayer de se pousser en fait. Du vélo à étage, voilà, il n'y a aucune raison qu'on se fasse mal, ça va bien
se
passer.
Ce sera sans moi.
Et c'est ouvert à toutes et tous. Et il y aura également les Forces du Mal qui seront là pour faire un brassage collectif. Et également la restauration sera assurée par Saveur d'Exil, voilà.
D'accord, merci beaucoup à toi en tout cas.
Et merci à toi, ouais.
Et puis, tu seras le bienvenu quand tu veux à la radio. Et voilà, rendez-vous donc samedi 4 et dimanche 5 pour le grand anniversaire de la Vélorussion. Merci.
Merci et vive Canal Sud.
Ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe oublié sur la voie ferrée. Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe ressuscité au milieu des pavés. Toi, tu l'arraches avec tes bulldozers, roi de l'or, esclave de l'or. Toi, tu l'enterres avec tes quatre hivers, fils de la mort et père de la mort. quand même dans mon désespoir. Je t'aimerais toujours bien davantage que toi tu n'aimes sous ton parasol noir. Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe oublié.